Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune, sur le 92 FM et sur le www.prune.net, partout sur la planète. Alors ce soir, on débriefe l'actualité sportive avec nos chroniqueurs et on commence à ma droite avec toi, mon Charles.
Hello à tous, bonne émission à tous et content d'être avec vous ce soir.
Et puis à côté de toi, c'est Fabrice.
Bonsoir à toutes, bonne émission.
Et à midi, c'est Maëlan en face de moi.
Salut à toutes et à tous.
J'oublie pas Jérém.
Salut, salut et bonne soirée à tous et bonne émission.
Et puis bien sûr, Jean-Marc.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un petit coucou à Déborah et Michel, nouvelle connaissance de samedi. Et puis je te laisse présenter notre dernière invitée, la meilleure.
Et toi, continue à bien te soigner. Oui, en guest avec nous ce soir, c'est Bénédicte. Elle vient nous parler du Stade Nantais qui monte en Fédéral 1, bien sûr.
Salut à tous.
Alors au programme, il n'y aura pas que le Stade Nantais, on démarre avec la page football, c'était les barrages de la Coupe du Monde, zone Europe et Afrique. Ensuite, on débriefe les résultats des clubs nantais, en tous les cas pour ceux qui étaient sur le pont. Une page vélo, on revient sur les classiques du printemps et dans la rubrique multizone du tennis, du golf et aussi, de la F1, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est le football, Maëlan. C'est le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on revient sur l'actu football de la semaine, c'était les barrages Coupe du Monde, barrage niveau 1 pour les équipes qui étaient engagées. Elles étaient 12, et on en a déjà 6 qui devraient s'affronter pour 3 billets pour la Coupe du Monde, Charles.
Exactement, on a eu ces sortes de... nouveau format de qualification de la Coupe du Monde. Il y a des sortes de demi-finales, tirage au sort, où finalement il y a 3... poules, on va dire ça, enfin trois plots, on va dire ça comme ça.
Trois voix.
On va dire, voilà, très bien, trois voix. Avec une première voix, avec trois voix. Et donc on a eu deux bons matchs, avec notamment deux matchs évidemment reportés, annulés, on sait pas trop, surtout Russie-Pologne et Écosse-Ukraine en raison du conflit géopolitique. Et mais sinon, on a eu quatre autres très beaux matchs avec la grosse surprise, on peut en parler. Ce n'est pas la victoire du Pays de Galles face à l'Autriche,
ciao
mais surtout.
Italia.
Voilà quoi.
C'est le fiasco italien.
Bis repetita.
Le naufrage.
Deux fois d'affilée et pourtant auréolé d'un titre de champion d'Europe. Et ce fiasco italien se démarre par un match pourtant ultra dominé par l'Italie, à plus de 66% de possession de balle. Mais c'est une statistique infâme, 33 tirs, 5 cadrés pour l'Italie. 4 tirs, 2 cadrés pour la Barcelone et un but en tout fin de match d'un
92e.
Très, très beau but enroulé côté gauche, imparable pour
Trajkovski à la 92e.
Et le robot macédonien qui va devoir.
Joueur de Serie A.
Palerme. Ancien joueur du Palermo Calcio.
C'est ça.
Et qui a marqué à la Favorita, le stade de Palerme.
Ouais, voilà. C'est ça.
Les Italiens, moi, évidemment, sont très déçus, mais si vous avez vu dans quel état ils ont laissé les vestiaires, c'est...
Immonde.
Ils sont éliminés, mais bon, t'as un peu d'amour propre et voilà quoi.
Un peu de respect.
Et
surtout pour les gentlemen italiens, ce soit dit, c'est inutile.
Voilà, donc bon, c'est vrai que la Macédoine n'a pas fait un grand match, ils ont défendu 90 minutes.
C'était leur rôle, hein. Enfin,
c'est leur rôle, voilà. Mais voilà, ils ont marqué.
Ils ont joué leur jeu, mais...
Ils rencontreront le Portugal. Le Portugal ne veut pas se faire piéger.
Un Portugal qui a gagné 3-1 face à la...
Portugal est prévenu.
Je te rassure, Mathieu, Kirill Nazarov ne jouait pas pour la Macédoine du Nord du football. Hein, il fait que le hand.
Et du coup, pour rebondir sur Portugal, le Portugal a fait un très gros match contre la Turquie. Marqué 3 buts à 1.
C'est les buts de, notamment de Jota,
Otavio, et Rota et Núñez.
Núñez, exactement. Et
très gommage de jouer Portugal, collectivement parlant, et au niveau application.
Jérémy, tu l'as trouvé comment l'Italie, toi ?
L'Italie, non, c'est.
On Fad.
L'Italie, c'est fini, on ne parle plus.
Bah, le problème de l'Italie, c'est qu'ils se sont fait éliminer, lors des phases de qualification par Jorginho qui loupe son pénalty face à la Suisse. C'est un peu le tournant, je pense, hein, parce qu'on sent qu'il y a un changement mental d'état d'esprit qui fait que là, ils ont une grosse pression. Ils sont quand même champions d'Europe en titre.
Et surtout que je ne crois pas, moi, c'est, excuse-moi de couper Charles, mais quand on fait 66% de possession de balle, qu'on fait 33 tirs, qu'on n'a que 5, et que d'ailleurs on se fait prendre 4 tirs et 2 buts cadrés, dont un but.
Bah, ça a été tout le problème de l'Italie.
À ce niveau-là de jeu, c'est pas possible.
On est passé par là. Hein, l'équipe de France est passée par cette situation aussi.
Oui, en 93.
Et, voilà, 93.
Oui, mais là, deux fois d'affilée.
C'est ce qui nous était arrivé, 90-94.
Voilà. On a loupé deux Coupes du Monde aussi. Hein.
Voilà, avec des grandes générations. Hein, c'était
avec des belles générations. Tout à fait. Bon, Gignola, c'est mon pote, donc on va peut-être pas non plus épiloguer là-dessus. Pour moi, c'est pas le petit salaud qu'on croyait à l'époque. Non,
on c'est le pas... sait bien, Fabrice.
Et du coup...
Voilà, l'Italie dans le même cas.
Voilà.
Mais est-ce que tu as fini avec l'Italie ou pas ?
L'Italie, c'est fini, oui.
D'accord.
Ciao.
Donc, comme tu parlais de pénalty, je voulais signaler que le Turc Yılmaz a lui aussi raté son pénalty qui aurait pu permettre... Exactement, voilà. La Turquie, et ce qui a permis derrière au Portugal de mettre un troisième but et de gagner.
C'est un peu du coup. La victoire, entre guillemets, après n'est pas forcément déméritée. Et le Portugal, on sait que ça reste toujours une grande équipe et qu'ils seront présents. Et donc, face à Macédoine du Nord, ça va pas être compliqué, ça va pas être simple, mais.
Moins compliqué que face à l'Italie sur le papier.
Voilà, c'est ça.
On enchaîne avec les autres résultats.
Le Pays de Galles qui l'emporte 2-0.
Doublé de Bale, 2-1 face à l'Autriche.
Et doublé de Bale qui, aux abonnés absents au Real Madrid, se disant blessé ou hors forme, le mec fait quand même une masterclass.
La différence, il joue au golf quand il est au Real, et quand il joue au Pays de Galles, il joue.
Mais quand même, pour un mec qui est soit blessé et hors forme au Real Madrid, le mec est titulaire au Pays de Galles.
Ça reste un excellent joueur.
Dont un très très beau but.
Il fait partie des capitaines.
Coup franc magnifique. Qui nettoie la toile d'araignée dans la lucarne.
Et sinon, la Suède a remporté son match en toute fin de match face à la Tchèque.
Ouais.
Tchèques qui sont très malheureux en Coupe du Monde. Pourtant, ils ont un bon niveau, ils jouent très bien, mais malheureux en Coupe du Monde. Ibra reste qualifié pour la Coupe du Monde pour l'instant.
Il rencontrera Lewandowski, puisque la Pologne sans jouer et en finale.
Portugal, Macédoine du Nord, et le Pays de Galles jouera soit contre l'Écosse ou l'Ukraine.
Ça dépendra.
Tout dépend des choix faits par la FIFA.
J'avoue que ce petit Écosse-Pays de Galles, moi, il me fait rêver depuis le début.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Alors,
ouais.
J'espère qu'il y aura quand même match contre l'Ukraine, c'est normal.
Mais après,
pour l'instant, je ne pense pas.
Je souhaiterais la victoire de l'Écosse dans tous les cas pour qu'il joue contre le Pays de Galles.
Et pour le Suède-Pologne, un des top joueurs, Zlatan ou Lewandowski, n'ira pas à la Coupe du Monde.
Ouais.
Voilà. Ouais.
Qui vous préférez voir en Coupe du Monde,
Zlatan ? Lewandowski.
Moi, j'en préfère Zlatan aller pour le retour.
Je
préfère voir Zlatan parce que je sais qu'avec la Pologne, ils feront jamais rien, on les attend ils ont du beau effectif et Lewandowski à chaque fois, il fait jamais rien.
Très souvent déçu,
Pologne. Grand chose, malheureusement, en 2018.
La Suède, c'est une nation très combative, même si les jeux n'est pas beau, c'est des joueurs qui.
Moi, je trouve bien, il y a un meilleur collectif côté suédois.
Entre le goal et l'attaque, c'est des joueurs qui ne lâchent rien, ils font du beau spectacle.
Et Zlatan est capable de nous dire. Je ne vais pas regarder la Coupe du Monde parce qu'une Coupe du Monde sans Zlatan, ce n'est pas une Coupe du Monde.
On enchaîne avec l'Afrique. Il y a des résultats importants qui sont tombés aussi ce week-end avec les matchs allés.
C'était le troisième tour avec les matchs allés. On a eu le droit d'une belle surprise, notamment l'Algérie qui est allée s'imposer au Cameroun avec un but de Islam Slimani. Ouais,
très beau but de la tête où Nana a rien pu faire, battu pas la barre.
Voilà, mais donc l'Algérie qui du coup entame bien son match aller, On verra bien. On verra
bien ça. Tous les représentants du Maghreb ont gagné.
La Tunisie, sauf le Maroc. Le Maroc qui a fait match contre le Congo, qui était dominé au premier temps.
On va passer à la Tunisie. Donc
la Tunisie qui bat du coup aussi à l'extérieur le Mali avec un but contre son camp de Sissako. Du coup, le Tunisie est pour l'instant bien engagé sur ce match aller. Il réceptionne sur leur match retour cette semaine. Forcément, ça les avantage. L'autre côté, c'est l'Égypte qui bat le Sénégal 1-0 avec un but contre son camp aussi de 6 en début de match à 4ème jeu. L'Égypte a réussi à...
Il y aura un match au retour à Dakar. Hein.
Un match retour à Dakar qui va pas être forcément très simple. On connaît l'ambiance à Dakar. Bien évidemment, ça sera encore un gros match entre deux grosses équipes du...
Et il y a Ghana aussi, Ghana-Nigeria, c'était le dernier.
Où il y avait match 0-0. 0-0. Match assez serré et assez équilibré, avec beaucoup de déchets, dans le jeu. Match retour au Nigeria. Tout reste à faire pour ces équipes-là.
Ouais, donc il y aura 4 représentants africains dans cette Coupe du Monde et on n'en connaît pas encore un seul.
Mais il n'y aura pas la Côte d'Ivoire, évidemment, qui jouait contre la France le même jour que les matchs des nations africaines.
Pour un match amical. Hein.
C'est ça, Didier Deschamps l'a dit lui-même, que ce n'était pas forcément un match amical, mais plutôt un match qui, dans l'intensité, dans le jeu, qui est un match de réelle compétition. Et ce fut le cas, parce que franchement, ça a été très disputé.
Et en sachant que c'est la Côte d'Ivoire qui a ouvert le score contre la France, on a peiné à revenir au score.
C'est Nicolas Pépé.
Ancien Lillois. Et du coup, c'est Giroud de la tête qui a remis la France en jeu. Et
Tchouaméni.
Et Tchouaméni, en fin de match, encore de la tête.
Tchouaméni, plutôt, les gars.
Tchouaméni.
Tchouaméni,
si tu préfères. Tchouaméni.
Aurélien.
Tchouaméni.
Ancien Bordelais, formé à Bordeaux, et maintenant qui joue à l'AS Monaco. Et qui est pour présence pour Veto, pour le soit le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain.
Qui a fait une belle entrée. Je pense que c'est une belle surprise au niveau des équipes de France. Je pense qu'il va être titulaire.
C'est un très bon joueur.
Actuellement, Adrien Tchouaméni est en excellente forme. On le voit bien, il rayonne au milieu de terrain de l'AS Monaco. C'est une vraie révélation cette année.
Box to box en plus, mais très bon profil.
C'est ça, c'est un très bon récupérateur qui se projette très bien. C'est vraiment actuellement un milieu très complet.
Ça va faire des dégâts,
Pogba.
Ça. Hein.
Remplacer Pogba.
Pour moi, oui. Pour moi, actuellement, c'est plus complet qu'un Pogba et c'est plus efficace. En plus, si on rajoute un N'Golo Kanté,
oui.
Franchement, ça fait un milieu très actif.
Et que l'on grandit en pleine forme. Parce qu'il y a
un Pogba qui rentre,
ça
fait vraiment du très bon travail au milieu de terrain. Ça.
Et N'Golo a pas joué contre la Côte d'Ivoire parce qu'il devait avoir des familiales. Il revient et il sera là pour le match contre l'Afrique du Sud.
Bon, tirage au sort de la Coupe du Monde, même si on n'aura pas tous les qualifiés.
Le 31 mars. L'annonce des chapeaux, et puis après, dans le moment, ce sera juste après le tirage pour la Coupe du Monde.
J'avais juste une petite question sur les qualifiés pour l'Asie. Parce que j'ai vu que les pauvres cagous avaient été éliminés avec la Nouvelle-Calédonie par les Néo-Zélandais 7-1.
Mais du coup, là pour l'instant, pour répondre à la question, t'as le Japon et l'Arabie Sud qui sont qualifiés sûrs.
Oui, et le Qatar. Je voulais en savoir quel en était où on en était pour Tahiti.
Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un barrage avec le cinquième zone
Si, des
Sud.
C'est possible, ça, effectivement.
Mais j'ai pas trouvé Tahiti et ça me perturbait.
On fera le point quand on aura tout ça. On a terminé cette page football, Maëlan. On va ouvrir la page Club Nantais. C'est le score en stock.
Money time. Score en stock. Résultats, analyses, classements et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Jean-Marc, je te laisse commencer avec ce que tu veux dans cette rubrique de nos clubs nantais.
Allez, je commence pour faire un petit peu d'actu. Le volet, défaite du VBN 3-0 à Cannes. Pour son dernier match, les volleyeuses nantaises s'inclinent au Palais des Victoires à Cannes. Finalement, elles vont finir 5e de saison régulière. C'est un peu embêtant. Et du coup, elles attaqueront face au 4e Terville-Florange.
Les play-offs,
avec du coup le sens inversé. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'elles étaient devant toute la saison. C'est comme ça. Il y a eu pire, c'est les boys. Alors, la saison n'est pas finie pour les boys.
Les boys, c'est les play-down.
Oui, mais avant les play-down, ils avaient l'occasion de jouer la Coupe de France. Et ils étaient en déplacement au Plessis-Robinson.
Ils ont bataillé, perdant le premier set 25-19, mais emportant le deuxième 25-19. Perdant le troisième 25-23, mais se battant pour empocher le quatrième 29-27. Mais ils ont perdu 17-15 dans le cinquième set. Et du coup, ne verront pas la suite des qualifications et n'auront pas l'occasion de croiser Saint-Nazaire, qui lui s'est qualifié en battant Nice pour les quarts de finale. Du coup, on suivra Saint-Nazaire, qui est le dernier représentant de la Loire-Atlantique. Voilà, pour le volet, un petit mot de basketball. Une victoire pour finir, mais qui n'empêche pas la descente pour les déferlantes. Victoire 50-37 face à Montbrison, mais on le savait déjà depuis une semaine. Les déferlantes sont reléguées et vont devoir tout reconstruire, y compris changer de salle.
C'est ça. Et pour parler des déferlantes, leurs deuxième victoire de ce week-end et de week-end d'avant sont dues grâce à ce qu'elles sont venues manger au restaurant Rennes le midi.
Ah d'accord, moi je pensais que c'était parce qu'il y avait sur le banc Camille Aubert, la sœur de Caroline Aubert, qui a remplacé l'entraîneur qui était en poste avant. C'est peut-être aussi ce que tu leur as servi. Hein.
Voilà.
On va tout miser là-dessus aussi. Il va vraiment falloir reconstruire quelque chose d'intelligent autour de Camille Aubert. On verra. Pour les garçons, ça va mieux.
Ah,
victoire au buzzer de l'Hermine, 87-85. Première victoire depuis 8 matchs à l'extérieur. Deuxième victoire de suite. Grâce à un super premier quart-temps, remporté 27-17. La bonne première période qui permettra aux Nantais d'avoir 14 points d'avance. Et puis après, ils vont serrer les fesses pour tenir jusqu'au score final. C'est très très bien. Demain, ils enchaînent avec un déplacement à Vichy.
Surtout que c'était face à Lille.
C'était face à Lille.
Lille qui était largement au-dessus de nous.
Et qui était l'ancien club du coach actuel Jean-Marc Duprat. Rien à voir avec moi, rien à voir avec Duprat. Donc déplacement à Vichy. Et puis, ça sera la réception importante vendredi à 20h, le premier, celle de Blois.
Et au classement, du coup, les Nantais sont 13e.
Ils font un bon
classement.
Ah oui,
bon.
Très gros.
Doucement, parce qu'une défaite, on peut repasser directement 17e.
Oui, voilà, c'est
très, très serré.
En fait, il y a 5 équipes qui ont le même nombre de victoires. Et
une défaite en plus pour Alliance, c'est pour...
Oui, il y a quelques clubs qui ont une défaite supplémentaire.
C'est ça, c'est pour l'Alliance Sport Alsace, c'est pour Quimper et pour Boulazac. Et on est à égalité, nous, avec Denain qui est juste derrière nous. Donc c'est très, très serré tout ça.
Mais une petite série.
Ça fait du bien.
On va chercher les playoffs.
Il reste quand même match du coup.
Oh, il en reste encore un paquet.
C'est hop là, je vais te dire ça tout de suite. On est à la 25e journée, il y en a 34, donc il reste 9 journées.
Ok.
10 même, 9, 9.
On parle de hockey, on parle des Corsaires.
Allez, on parle des Corsaires. Puisque Nantes avait donc gagné les deux premiers matchs le week-end dernier. Et puis après avoir perdu mercredi, une défaite 3-2 pour les Corsaires qui ont échoué un tout petit but des prolongations en fin de match mercredi à la patinoire de Caen. Mais il n'en fut pas de même jeudi, où les Corsaires ont attaqué d'entrée, menant par après des buts de Ten Brack à la première, Paul Schmidt à la 15e et Crowder à la 20e. Le break était fait, 3-0. Derrière, le match plié pour les Drakkar qui était en train de couler. Malgré
les Corsaires sont partis à l'abordage et ils ont fait couler le Drakkar.
Ils ont fait couler les Drakkar, ça c'est beau. Et malgré un but de Delvin pour les Normands, les Corsaires ne vont rien lâcher, assurer le spectacle et un dernier but de Bergui qui nous emmène en demi-finale. Demi-finale, on va retrouver nos meilleurs voisins, ennemis, tout ce que vous voulez.
Non.
Non, on joue mais pas non, Angers.
Mais on joue les Choletais, nous.
Les Dogs de Cholet. On ira à Glycéo, ça sera dès samedi. Donc samedi et dimanche, on est à Glycéo. Les Choletais qui, eux, ont galéré un petit peu. Hein. Mm-hmm. Ils menaient aussi, mais ils ont dû aller jusqu'au cinquième match avec Épinal. Qu'ils ont emporté 5-3 après avoir été menés 3-1. Mais grâce à la grosse ambiance de Glycéo, ils ont réussi à l'emporter et ça sera important.
Ça va être chaud ce week-end.
Tous les supporters nantais de descendre, il y a deux matchs pour aller à Cholet, à Glycéo.
Allez, c'est un
Allez-y, minutes. Moi je vais tout faire pour y aller dimanche pour voir au moins une victoire des Nantais. Le duel va être terrible. Dans l'autre demi-finale, ça sera un match entre les Albatros et les Yétis du Mont-Blanc.
Donc finalement, les quatre premiers sont qualifiés. Les quatre premiers de la saison régulière sont qualifiés.
Exactement. Donc la logique est respectée. Et maintenant, parlons du Stade Nantais, puisque c'était le derby de luxe avec la réception du Racing Club La Baule et une victoire.
Une jolie victoire, 75-10. À l'image de l'année qu'ils ont vécue. Ils ont perdu qu'un seul match qui était à Tours, 32-31. Du coup, on espérait qu'à la visite de Tours, il y a un joli combat sur le terrain. Et non, ça a été un peu facile, haut la main 59-3 pour le Stade Nantais. Donc le SN survole, comme dirait Ludo, une année pour le fun. Et non, après, ça va être la montée effectivement en Fédéral 1, comme tu disais tout à l'heure, Matt. Mais après, ça va être après 3 ans. Contre des équipes qui n'avaient pas le même niveau du tout que le Stade Nantais, ça va être une autre histoire.
Mais ça va être la reconstruction, la reprise de l'histoire.
Et ça va être un nouvel entraîneur également, parce que Bertrand Guillou arrête cet été, et c'est un Italien qui le remplace, Bergamasco.
Oui, Mirko. Mauro Bergamasco.
Mauro ou Mirko ?
Mirko.
Ah non, c'est Mirko. Mince. Mirko. Et où ils viennent tous les deux, non ? C'est pas ça ? J'ai peut-être compris à l'envers.
On ne sait peut-être pas tout.
En tout cas, très bonne nouvelle pour le Stade Nantais. On est bien contents. Mais malgré tout, ça reste une saison très enrichissante. Certes, il y a des matchs comme le 128-0.
Contre Daumont, ouais.
C'est bon. Ça fera partie de l'histoire, de l'anecdote, hein, de ce vieux club qui est le Stade Nantais. Mais au-delà de ça, c'est bien de voir qu'ils ont réussi à garder une structure dans ce club, que tout n'est pas parti à volo, comme souvent avec ce club. Malgré les problèmes financiers qu'il y a eu il y a quelques années, qui les ont contraints à être rétrogradés. Et on a vu un jeu, et même encore cette année, ça reste agréable
de voir. Et puis les joueurs sont fidèles. Donc c'est toujours pratiquement la même équipe depuis pas mal d'années. Et effectivement, je pense qu'ils commencent à bien se connaître aussi.
Oui, parce qu'on voit toujours...
recruter un peu peut-être.
Ah, mais il faudra recruter, le fait d'avoir gardé des joueurs comme Beltest, comme, je sais pas, moi, Georges Chouvent, enfin, un peu dans toutes les lignes, tout le monde a été gardé. C'est des gens qui auront quelque chose à transmettre, justement, aux nouveaux arrivants. Et je pense qu'il faudra vraiment se reposer là-dessus.
Quelle va être l'ambition du Stade Nantais l'année prochaine en Fédéral 1 ?
Je pense que quand tu vois que tu finis premier avec autant d'avance, t'ambitionnes au moins d'être dans la première partie de tableau et de pas viser le maintien. Quoi.
Donc les play-offs.
Pourquoi pas viser la montée ?
Pas tout de suite.
Je verrai, il faut se stabiliser.
Ça fait 3 ans qu'ils ont quitté la Fédéral 1, donc on va leur laisser le temps de
déjà de se refaire. Et puis il y a toujours une Fédéral Elite.
Maintenant il y a une Fédéral Elite qui protège.
La Fédéral 1, hein, donc...
Mais de toute façon...
C'est l'antichambre de la Pro D2 avec des clubs de l'histoire du rugby.
En structure, de toute façon, il faut savoir que pour monter en Pro D2, il faut un stade de 5000 places assises, ce qui n'est pas le cas du stade Pascal Laporte. Il y aura le temps de réfléchir à d'autres projets.
Mais on n'y est pas encore.
Mais du coup...
Il faut les installer à la Trocardière. On veut tout le monde installer à la Trocardière.
C'est ça, c'est ça.
Bien sûr.
Comme ça, ça fait du super bouchon magique. Non, ils vont aller à l'Orvasserie, on va faire une belle tribune, ou à la Bergerie, un stade immense. Non, sans plaisanter par rapport à ça, il va falloir réfléchir à un projet. Et justement, c'est important de bien se poser en Fédéral 1, de poser un budget qui fait que ça ne va pas encore créer des problèmes. Et puis pouvoir fidéliser son public.
Hein. Le plus dur, souvent, c'est la régularité, la stabilité d'un club. Hein.
On y était arrivé. Hein. Je te rappelle qu'il y a 3 ans, Nantes était dans le haut du panier de la Fédéral
2. Ça faisait 2-3 de Fédéral 1.
C'est pas sportivement que Nantes...
C'est bien le problème.
Et là où il était. Hein.
Non, mais bon, on sait que c'est complexe. On sait la complexité de la chose. Mais il y a un cahier des charges vraiment à reprogrammer. Et les sponsors à voir aussi, parce qu'il ne faut pas anticiper ce que tu vas demander comme argent à tes sponsors. Si tu penses qu'ils vont se permettre de doubler leur budget comme ça parce qu'ils aiment le club, tu te trompes un peu. Il faut vraiment anticiper beaucoup de choses pour éviter d'être...
On espère qu'il y aura des sponsors et des sous au Stade Nantais.
Évidemment.
Et des résultats, bien sûr.
Dernier résultat local, et il nous attiste beaucoup, beaucoup, le FC Nantes féminin n'ira pas à Dijon pour la finale de la Coupe de France.
Mais non.
L'aventure s'est arrêtée à Yzeure.
Exactement. Une défaite 2-1 des Nantaises dans une première mi-temps, mais largement dominée par les Nantaises, mais qui se sont fait avoir sur deux erreurs.
Mbengue en première.
Ouais, double boulette.
Deux boulettes de Charlotte Lorjury, la capitaine.
Elle le reconnaît en plus.
Les deux erreurs, c'est deux joueuses qui font jamais d'erreur ou presque, l'ont faite. Et puis, malgré la réduction, il y aura eu une occasion d'Eloissin qui passe à côté.
Eloissin qui fait un très bon match quand même.
Et finalement, c'est la nouvelle arrivante de cet hiver, Thelma Eninger, qui marque, qui réduit le score, mais ça ne suffit pas.
L'entraîneur a dit ça y est, on passe à autre chose. On a un match contre Metz dimanche prochain. C'est bon.
Le risque, ce serait de rater ses chances de monter.
Ça aurait été beau quand même.
Bien sûr, on est tous d'accord. Mais le fait peut-être que d'avoir qu'un lièvre à courir, ça pourra peut-être permettre de l'avoir.
Avantager. Et peut-être, et comme c'est aussi une pression, un événement quand même d'aller en finale de Coupe de France qui peut impacter quand même.
Qui pouvait impacter, qui pouvait risquer.
Et aujourd'hui, on sait que dans leur pool, du moins en première, de là où elles sont, en première division, ça reste quand même, enfin deuxième division du coup, ils sont quand même, c'est très 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 serré actuellement, notamment avec Le Havre.
C'est à égalité avec Le Havre, il y a deux équipes qui sont pas loin, points derrière.
Le format pour la montée.
La format, il n'y a qu'une équipe, comme il y a deux poules, il n'y a qu'une équipe qui
monte. Il faut terminer premier.
Exactement. Donc c'est est-ce que c'est un mal pour un bien? On le saura de toute façon à la fin de la saison, mais en tout cas c'est sûr que la SMA va se concentrer sur la fin de saison. Les objectifs maintenant ils sont très clairs pour la FC Nantes, c'est la montée, c'est la victoire. Ça va pas être simple, mais c'est une logique de la viser au vu actuellement des performances de FC Nantes.
Et le prochain match sera au Havre justement, avec objectif de faire au minimum match nul gagner.
C'est Metz ce prochain match.
C'est Metz.
Pardon. Il y a Metz d'abord.
Metz.
Et il y aura Le Havre après. Il faudra le même score. Soit un nul, soit gagné.
Deux belles échéances pour les Canariens, chez les garçons et chez les filles.
Juste à noter, du coup, Yzeure qualifié pour la finale, qui affrontera du coup le Paris Saint-Germain qualifié sur le terrain de Fleury après avoir été mené 2-0, 4-2.
Bravo. Allez, un mot de hand, le H continue sa moisson de points en Liqui Moly Star League.
Voilà.
Victoire 40-36 face à Chartres.
C'était compliqué, surtout avec la mi-temps, c'était mené 21-19. C'était compliqué, ils ont réussi à revenir au score, mais attention.
Dans le money time, il a fallu batailler dans les 5 dernières minutes pour arracher ces deux points
si
précieux. Et du coup,
au moins, ça leur fait du bien au niveau motivation et mentalement pour préparer le match de demain contre Berlin.
Ouais, et dans le même temps, Liqui Moly Star League, Aix qui partage les points avec Chambé, c'était hier à 19h, du coup, le H seul second.
Encore un point de gratté sur Aix.
Et en sachant que Aix joue bientôt Paris.
Ouais.
Que c'est très bonne nouvelle pour Nantes.
Sur l'agenda, demain, c'est la réception de Furze Berlin à 20h45 à la H Arena. On rappelle, c'est les huitièmes de finale aller de l'European League pour le H. Un match compliqué face à des Allemands qui sont grosses équipes de la compétition. Moi,
toujours les Allemands, ils sont toujours forts, on les connaît.
Donc à suivre ça.
Ça sera un VTS et pour nous deux, ce sera un très gros match à superviser.
On y sera. Évidemment, allez, c'est terminé pour les résultats des clubs nantais. Maëlan, on va passer au cyclisme, on passe à Chasse-Patate.
Chasse-Patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et on revient sur les classiques du printemps, Charles, avec toi. Ça avait commencé mercredi par le Grand Prix E3.
Exactement, une belle semaine de classiques. Ça avait commencé, comme tu le dis, avec le. Il y avait aussi quand même aussi la Bruges Labanne, la fameuse Bruges classique aussi, une classique World Tour. Bon, un peu moins coté effectivement que le 3 et Grand Vélodrome.
Qui était avant les 4 jours de Labanne, qui maintenant se court sur une seule journée.
Exactement. On a eu la victoire de Tim Merlier, le coureur le belge de la Alpecin Phoenix, devant Groenewegen
et Mathieu Van Der Poel.
Exactement. Et devant Nasser Bouani, qui fait un nouveau podium, lui, qui réalise une bonne début de saison avec la Arkéa Samsic, qui du coup a enfin concrétisé, on en reparlera juste après, hier notamment. Et comme tu le disais, donc, voilà, on avait le Grand Prix E3 du coup, en préparatif du fameux Gent-Wevelgem. Et là encore, bah, une démonstration de la Jumbo-Visma. Wout van Aert s'impose devant Christophe Laporte. Ils sont arrivés en même temps. Wout van Aert a passé la ligne en premier. Mais une nouvelle fois, la Jumbo-Visma, ils sont impressionnants, hein, cette saison.
C'était la main tendue qu'avait fait Van Aert peut-être sur le Paris-Nice. À Laporte au Paris-Nice.
Exactement. C'est...
Chacun son tour.
Exactement, sachant que Wout van Aert n'avait pas encore gagné l'E3. C'est logique. Si peut-être Van Aert, s'il avait déjà gagné le 3, peut-être qu'on aurait pu voir Laporte gagner. Mais c'est vrai que là, bon, c'est
beaucoup
c'est...
de beaux débuts de saison pour Van Aert. Ouais, beaucoup de victoires en classique. Hein, il a gagné sur Bruxelles-Kurne.
On a vraiment de la chance. Enfin, entre guillemets, la Jumbo-Visma a vraiment de la chance d'avoir aujourd'hui une des meilleures équipes du monde et de pouvoir compter sur notamment Christophe Laporte, mais qui est en forme phénoménale sur ce début de saison. Hein. On sait qu'il arrive de la Cofidis, on ne le voyait pas aussi performant.
Numériquement, il vient remplacer Groenewegen, hein, qui
exactement,
est parti.
Exactement.
On a aussi Tiche Benoît, un nouveau transfuge hein, pour les Jumbo-Visma.
Le Tiche Benoît qui était de la DSM notamment. Ouais. Mais c'est vrai que Christophe Laporte, cette année, se mue en coéquipier, mais aussi en potentielle victoire. On l'a vu sur Paris-Nice, où il accompagne Roglic et Van Aert sur l'étape où il gagne. Là encore, il est avec Van Aert. Franchement, Christophe Laporte...
devrait être à la fête sur le Tour de France avec une équipe comme la Jumbo.
En vrai, oui, à mon avis, au vu de la performance des Jumbo-Visma actuellement, Christophe Laporte a très forte chance de participer au Tour de France, qui plus est, il est français, mais de pouvoir, pourquoi pas, remporter une étape, parce qu'on voit qu'actuellement, ils sont très très performants.
Et on passe à la classique Gent-Wevelgem, c'était hier.
C'est ça, Gent-Wevelgem, la classique en préparatif du Tour des Flandres un peu, hein, même si ça reste quand même une grosse classique World Tour. Hein, c'est considéré comme les classiques avec la Strade Bianche, tout ça, hein, juste en dessous de ces cinq grands monuments. Et on a eu finalement en échappée, quatre sont sortis du peloton, Christophe Laporte, Van Gestel, Stuyven et Guermey. Et on a eu un sprint à 4 pour la victoire. Et c'est le coureur érythréen de l'Intermarché Antiroupe Gobert, 21 ans, qui
grande
remporte.
Surprise. Grande surprise.
Très grande surprise. Et historique.
Historique. Premier africain à remporter une classique.
Ouais, on est un peu déçu pour Laporte parce que dans ce groupe, on se disait qu'il allait régler tout le monde au sprint.
C'est ça, encore très, on le voit, il est encore présent, très en forme et tout cette saison. Et on sait qu'il est forcément plus attendu maintenant, je pense, avec le peloton. Et que forcément, ils l'ont laissé prendre le lead jusqu'à la fin, pour le lancement du sprint. Et forcément, quand tu lances le sprint, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu es à réaction alors que Guermey, il était dans l'action directement.
Charles, c'est une surprise, Guermey, ou...
C'est pas une surprise.
Il a quand même fait deuxième au Mondial Espoir.
Non, mais c'est ça. C'est
21 quand même.
C'est une semi-surprise dans le sens où c'est un Africain. C'est très rare dans l'histoire. Mais il ne faut pas oublier.
C'est un enfant de l'aigle.
21 ans.
Il a été construit au vélo à aigle.
Ouais, exactement. Mais ça reste quand même quelqu'un qui, on se souvient, avait battu Remco Evenepoel dans les classes, dans les jeunes. Hein.
C'est ça.
Donc c'est pas non plus, il vient pas de n'importe où. C'est pas, il a pas popé comme ça en plein milieu.
Et sur le Tour de Catalogne, il finit quand même 12e.
Et ça, il a quand même des références. Hein. C'est un bon
en
sprinter.
En tous les cas,
hein.
C'est lui qui lance le sprint de derrière. Hein. Il était quatrième dans ce petit groupe. Hein, pour
il lance le sprint.
Jouer la victoire.
Christophe Laporte arrive un petit peu à revenir sur la fin du sprint, mais
il est battu d'un vélo.
Il est battu d'un demi-vélo, mais parce que forcément. C'est compliqué pour lui, Guermey est en pleine accélération, lui il a le temps de réagir, c'est-à-dire c'était trop tard, si vraiment il voulait peut-être remporter, il aurait fallu lancer lui-même le sprint, vu qu'il était en tête, sinon à réaction ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Alors on le verra pas sur le reste des classiques flandriennes, hein, puisqu'il se repose et il se prépare pour le Giro.
Notamment.
Il l'a annoncé hier, donc avec des objectifs certainement de victoire d'étape, Guermey.
D'accord.
Voilà. Et les Flandriennes, ça continue cette semaine. On a à travers la Flandre.
À travers la Flandre, notamment le mercredi, puis le Tour
c'était
des Flandres.
Pas à la Philippe, le tenant d'ailleurs.
De à travers la Flandre.
Ouais.
C'est possible ça.
Mathieu Van Der Poel. Julien l'a gagné. Il y a 2 ans.
Exactement. Et du coup, en préparatif, notamment du
Tour
des Flandres.
Alors, quels sont les favoris cette année?
On va dire, c'est pratiquement les mêmes.
On sait qu'Alaphilippe fait l'impasse hein, sur les.
Exactement, sur les parce qu'il prépare les Ardennaises avec notamment les Bastogne-Liège. On aura normalement Van Der Poel devrait le faire. Van Aert devrait le faire. Sans doute Pogacar. ça devrait être ça à peu près les gros favoris, les gros noms. Après voilà, ça reste les mêmes depuis le début de la saison.
Et en sachant que
il y aura toujours les grands, les petits, les noms, les autres noms à côté, bien évidemment. Mais bon.
Ça, et en sachant que
Asgreen notamment.
Et en sachant que Sagan a déclaré forfait.
Comment?
Sagan.
Oui, Peter Sagan a déclaré forfait avec la Total Energy. Mais c'est vrai que Asgreen, évidemment, qui a remporté le Tour des Flandres l'année dernière notamment. Donc ça va être encore très serré et on retrouvera sans doute les mêmes encore cette saison. Sur cette édition. À noter juste les deux tours qu'il y avait, les deux courses par étapes de cette semaine, dont le tour de Catalogne, l'étape World classique, enfin classique. La course par étapes World Tour de cette semaine et la victoire de Sergio Higuita et Richard Carapaz qui ont tout fait péter dans la dernière étape où ils ont fait un numéro et puis ils ont pu réussir à l'emporter. Du coup, Sergio Higuita qui la remporte. La dernière étape est pour Andrea Bagioli, le jeune Italien de la Quick-Step Alpha Vinyl. De l'autre côté, c'était la semaine internationale remportée par Eddie Dunbar, l'Irlandais de l'Ineos Grenadier, devant un autre Irlandais de l'Ineos Grenadier, c'est Tulet. Marc Hirschi finit troisième. Et juste une dernière chose, c'est la Route Orangelle classique, donc petite classique française et tout, qui se dispute au niveau de Tours. Et on a eu, voilà, comme je vous le disais,
Nasser Bouhanni,
exactement, première victoire cette saison. Exactement,
bravo,
il s'impose devant Brian Coquard et Dujardin. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est pour Bouhanni, ça va le mettre en confiance.
Il
on
doit,
sait qu'il est
il
meilleur
doit être sur le Giro, lui, hein, cette
oui,
année.
C'est, parce que la Arkea a décidé de faire l'impasse cette saison sur le Giro pour préparer en fait potentiellement le World Tour l'année prochaine. Donc ils se concentrent sur le Tour de France et la Vuelta.
Très bien.
Donc on le verra sans doute sur le Tour de France.
On a été complet sur cette page vélo, Maëlan, on va passer au reste de l'actu, c'est Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle de F1, on parle du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Fab.
Ouais, un Grand Prix palpitant. Et
deuxième du nom, 4 mois après le précédent. Hein, c'est lui qui n'avait pas clôturé, mais...
100 jours, je crois, 108 jours. Ouais. L'avant-dernier Grand Prix avant Abu Dhabi.
Grand Prix qu'on annonçait dangereux.
Oui, dangereux, parce que bon, il y a eu un attentat. Certains pilotes ne voulaient pas courir la course, mais bon, ils l'ont fait. Palpitant, parce que voilà, la ligne de départ était un petit peu bizarre, avec un Pérez en tête, avec un Hamilton 15e.
Première pole pour le Mexicain.
C'est le 217 de départ. Hein.
Voilà, c'est d'ailleurs le poleman qui a attendu le plus, ouais, avec le nombre de courses qu'il a effectuées. C'est ça, 218 courses. Mmh. C'est quel poids attendu. Mais c'est mérité.
Avant, c'était 138 courses. Je ne sais plus quel pilote avait attendu 138 courses pour avoir une pole.
C'est moi.
Mais c'est toi. Mais voilà. Puis bon, des stratégies complètement différentes. Et on a un gros problème. On le voit dès le deuxième Grand Prix. Le premier, ça s'est avéré. Mais dès le deuxième Grand Prix, beaucoup de problèmes de pneumatiques. Des choix de pneumatiques complètement différents, avec des blancs.
Ça, on savait que ça allait être sec. Hein,
ça va être sec, mais c'était poussiéreux.
Faible dynamisme
des pneus. Il ne fallait pas partir à gauche,
Il y avait des dunes.
Il n'y avait pas des dunes, mais voilà. Puis bon, une victoire, Verstappen. Et ça a été compliqué, mais je pense que Leclerc a laissé la victoire à Verstappen parce qu'il y a l'histoire de DRS, ça a été stratégique. Il a été très intelligent. Et vous avez vu, il y a une ligne au bout de la ligne droite où la DRS se met en marche. Et là, Verstappen a pilé. Mais le problème, c'est que...
Pour pas avoir son...
Pour garder le
c'est la ligne
DRS.
De détection de DRS.
C'est la ligne de...
Celui qui passe juste derrière, à moins d'une seconde, et obtient le
DRS. Et Leclerc, il a compris.
Il y avait une bataille.
Mais quand Leclerc a compris, dans son rétro, qu'il allait faire ça, lui aussi a pilé.
Ouais. Ce qui fait qu'ils étaient quasiment à l'arrêt.
Ouais, à l'arrêt, ils étaient à l'arrêt. Oui. T'as raison, Charles, ils étaient à l'arrêt. Et d'un seul coup, c'est reparti.
Puis et là, Leclerc est parti parce que bon, d'un moment, faut quand même y aller. Hein. Mais cette bataille pour le DRS est vraiment très intéressante. Cette saison, parce que c'est vraiment là où on voit une augmentation conséquente du nombre de dépassements grâce au DRS. C'est ce qui fait un atout considérable, notamment avec la nouvelle réglementation actuellement, parce qu'elle permet moins. Il y a beaucoup moins d'air sale qui est dégagé depuis cette année avec les nouvelles voitures à effet de sol. Ce qui fait que l'aspiration est beaucoup moins influente.
Mais du coup,
le DRS influe énormément. C'est pour ça que tout le monde a le DRS.
Il y a 25 km/h de plus.
C'est entre 15 et 20 apparemment.
Ouais. Et le seul problème qu'ils ont, c'est au freinage. Et sur un circuit à 27 virages, quand ils ont le DRS, les mecs, Magnussen est passé à la faute. Il y a quand même pas mal qui sont partis à la faute parce que, bah, évidemment, ils
ont le DRS. C'est pour ça qu'il faut fermer le DRS.
Et il faut le fermer. Certains ne l'ont même pas activé. Certains, d'ailleurs, on a vu Hamilton, il est passé, il a passé 3-4 voitures sans DRS. Hein. Il est passé tranquille. Parce que voilà, c'est un style de pilotage différent. Il attaque, il attaque, il attaque. Ce que je reproche un peu au DRS, quoi. Mais
c'est pratique. Ça permet de.
Bah c'est pratique, voilà. Mais le problème, c'est que ça devient stratégique.
Ah ben.
Où on dit,
c'est le boost, quoi, le DRS.
Ah ben c'est un boost.
C'est un petit peu comme dans Mario Kart.
C'est le champignon voilà, de Mario Kart.
Ouais, turbo, t'appuies sur turbo, puis voilà quoi. Et juste un truc à dire, c'est. Ouais, pour revenir, bon, mais voilà, belle victoire. Bon, Leclerc est toujours en tête du chemin du monde, ce qui est
largement hein, au classement des pilotes.
Oui, puisque Verstappen n'avait pas marqué de points.
Il n'a pas marqué les deux.
Leclerc est à 45 points. Deuxième, Sainz qui fait un nouveau podium pour Carlos Sainz, qui est la 17e course consécutive dans les points. Donc vraiment encore très en forme l'Espagnol.
Et bravo à Ocon et à Gasly qui finissent 6e et 9e.
Ouais, moi, je vais revenir sur la course qu'a vécu le directeur technique, le directeur
sportif
d'Alpine, où il a le cœur qui a flambé pendant,
entre les pendant batailles,
4-5 tours, Alonso, parce que Ocon et Alonso sont foutus, mis la bourre complètement, mais là, il a dit à un moment, il a dit stop, arrêtez les gars.
Otmar Szasznauer, ancien directeur sportif de l'équipe Aston Martin les années d'avant. Anciennement Racing Point.
Il a eu très peur que les deux mecs partent à la faute, quoi.
Bye.
Et il y avait Russell ou Magnussen qui était derrière.
Magnussen et Bottas étaient juste derrière.
Qui étaient juste derrière et qui revenaient du coup parce qu'il
était plus rapide.
Qui était vachement plus rapide.
Je pense qu'il avait
arrêté tout. Là.
Ouais. Je pense que Alonso était plus rapide que Gasly. Oui, Gasly a vraiment pas voulu laisser.
Ocon
n'a pas voulu laisser
la passer. Le directeur qui a dit laisse
passer. Mais pendant ce temps-là, effectivement, devant ça partait et impossible.
Et derrière ça revenait.
Et
donc fallait pas.
Il n'y a pas beaucoup de points pour Alpine de toute façon, donc le week-end n'est pas.
Et bah Alonso a pas voulu.
Mais par contre, c'est là où.
Mais qu'une voiture dans les points.
Et c'est là où il y a des points et c'est surprenant. C'est chez Haas. Où Magnussen finit encore une fois dans les 10 premiers et Magnussen a quand même fumé Hamilton.
Jérémy, je suis d'accord avec toi. C'est le mec, il a été repris au pied levé.
Au dernier moment. Et le mec, il
arrive de la supercar américaine. Et là, bing, en endurance. Et là, il revient et bingo, il est. Ils ont les
bravo,
points à chaque
et
fois.
Bravo, et
avec une Alfa Romeo, moteur Ferrari d'ailleurs.
Et fumer Hamilton. Hamilton l'a dit à la fin de la course, Magnussen m'a fumé.
Non mais t'as beau être Hamilton, tu le mets dans une Twingo, tu mets une Ferrari en passe avec n'importe qui, la Ferrari elle est toi-même devant. Au bout d'un moment, la voiture fait aussi un petit peu le pilotage et forcément la Mercedes qui est en plus, il l'a dit, il a mal réglé sa voiture pour cette course, ce qui fait qu'il ne pouvait pas être aussi performant, sachant qu'on sait le moteur Ferrari et la Haas qui a très bien performé cette.
Oui, mais c'est
juste de la logique après.
La nouvelle Mercedes W13 elle est.
Elle n'est pas encore bien.
Quand elle va revenir ?
Ça va évoluer. De toute façon, on sait que c'est une course de développement.
Je sais pas si vous avez regardé l'émission hier soir après le Grand Prix. C'était sur la conception de la nouvelle Mercedes tout où le mec de chez Red Bull et puis le mec de chez Ferrari dit mais attendez, on en a marre de voir les Mercedes devant tout le temps. On a fait des voitures compétitives. Maintenant, eux, ils sont à la rue. Sont à la rue. Je pense qu'ils sont à la rue, mais c'est tant mieux.
Ils sont pas à la rue. Pour moi, ça reste à la rue. C'est la troisième force du plateau. Actuellement loin derrière les Ferrari et les Red Bull, mais ça se vaut, ça reste quand même encore un peu devant les Alpine notamment.
Il y aura une grosse surprise Alpha Romeo. Il y aura une grosse surprise cette année.
Franchement,
ils seront sur le podium Alpha Romeo.
Les Ferrari sont vraiment, équipes motorisées Ferrari sont vraiment très performantes cette saison grâce au moteur Ferrari et parce qu'ils ont aussi des équipes qui étaient en bas de classement l'année dernière et qui en ont privilégié aussi la saison 2022 avec la nouvelle réglementation. Donc c'est plutôt logique, c'est plutôt logique de les voir là.
Hamilton se fait un peu griller aussi parce que je sais pas si vous avez vu le fait de course, il y a eu un fait de course énorme et Latifi changer ses pneus avant et Latifi se plante et il fait il a dit si Latifi est sorti plus personne ne peut sortir donc je peux plus changer mes pneus maintenant,
c'est ça,
mais c'est un peu grave de dire ça par rapport à un autre pilote, mais il l'a dit. Et c'était pas le seul pilote à le dire.
C'est le choix des pneus du début, en début de course. Il a choisi les hard. Les autres ont privilégié médium, sauf Hülkenberg et Magnussen. Ce qui fait que lui, il ne pouvait pas s'arrêter parce que c'était trop tôt dans la course.
Magnussen, il était en hard dès le départ aussi. Il roulait plus vite que Hamilton.
Latifi, hein. Oui, est-ce qu'il a sa place dans le plateau Formule
1? Non,
il devrait faire de la course de caisse à savon, on est bien d'accord.
C'est surtout qu'il a dit ça.
Commenté par Yann Rioux.
Là, t'es plus dur que Jacques Villeneuve hier.
Mais c'est encore plus dur. Ce que j'allais dire dans cette explication, c'est que pourquoi il a dit ça? C'est parce que Mazepin n'est plus là.
Ah oui, voilà, il en manquait un. Et Schumacher était sorti la veille.
Ouais. Mais Schumacher,
mais qu'est-ce que savon, ouais, peut-être.
Pour le Gaïf, mais Schumacher était apte de base à
il avait fait un super chrono.
Comment
va Mick Schumacher?
Très bien, ça va.
Oui, il va bien, mais après, il préfère ne pas prendre de risques, surtout dans ce sport qui est très dangereux. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur une
des
course.
Des commotions cérébrales et tout.
En tout cas, Schumacher cette année, je pense qu'il ne sera pas beaucoup dans les points, mais
il va prendre des points, ça.
Une progression qui est quand même hallucinante par rapport à l'année dernière.
Moi, je fais un
petit
pari.
On prendra toujours des pincettes avec l'intégrité physique d'un Schumacher.
Moi, mon pari du jour, c'est Latifi, seul pilote ne pas entrer dans les points cette saison.
Je suis d'accord avec toi.
Je ne suis pas sûr qu'il finisse la saison, moi, dans un paquet de formule.
L'argent de papa, t'inquiète.
Et à combien d'abandon? On va le faire.
De quoi?
Latifi.
Il y a deux là.
Deux sur deux.
On va pas faire une heure sur Latifi.
Juste une dernière chose, c'est la mauvaise chance pour Checo, Sergio Perez, qui malheureusement partait en tête, a fait une très bonne première partie de course. Latifi se crash, lui était rentré un tour avant grâce à la stratégie de.
Oui, donc t'as raison, Charles. C'est Perez qui fait la mauvaise opération par rapport.
Et du coup, lui et Perez étaient déjà rentrés en stand. Les autres profitent de la safety car. Il ressort quatrième avec à cause de la safety car et du coup forcément c'était plus compliqué pour déplacer.
C'est dommage pour lui.
En tout cas, grosse audience pour la F1 à la télé.
1,4 million.
Ça commence vraiment à passionner les foules en France, même surtout, en crypté.
Bah surtout qu'on a des Français qui jouent bien, qui pilotent bien. On a vraiment des
Y a du suspense.
La différence, c'est qu'avant il y avait l'hégémonie Mercedes où forcément il n'y avait que Mercedes. On s'emmerdait depuis l'année dernière avec Verstappen qui vient titiller Mercedes et Hamilton. Et cette saison, encore une fois, avec les nouvelles réglementations et le fait que ça soit beaucoup plus, il y a plus de combats entre Charles Leclerc, Verstappen, même dans le milieu, tout ça.
C'est très le retour d'Alpine, forcément.
C'est vraiment cool et tout le monde peut jouer les points actuellement et ça c'est intéressant.
C'est très
sauf
animé.
Les Aston Martin et les Williams.
Comment ça ressemblait à la bécane?
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mais même la bécane, il y a quelques années, ça passionnait moins. Et cette année, avec Fabio Quartararo, Zarco, tout ça passionne.
On est loin de dire qui va être champion de Formule 1.
Tout à fait, c'est clair.
Et qui va être champion de MotoGP cette année? On ne peut pas le dire pour l'instant. On ne va pas dire les années Hamilton sont passées. Non, Hamilton peut revenir.
Sur l'agenda, dans deux semaines, on est à Melbourne.
Melbourne, en Australie.
Il faudra se lever de bonne heure, vers 4-5 heures, certainement, le départ.
Et bien, on se lèvera. Et à noter, en MotoGP, juste.
MotoGP, c'est la semaine prochaine.
C'est ce week-end en Argentine.
Ouais, ce week-end, dimanche.
Avec en prime time à 20h le Grand Prix dimanche.
Parfait. On parle de tennis.
Yes, on était. Ça a commencé. C'était le Masters 1000 de Miami qui a commencé. On a pu voir maintenant la déception pour le Français qui s'est fait éliminer dans la nuit. Ce sont Hugo Gaston et Gaël Monfils. Ouais. Gaston plutôt logique contre Cameron Norrie, 10e tête de série numéro 10, 6-3-7-5.
Oui, mais extrêmement frustré parce qu'il a eu 5 balles de match aussi.
Pas Gaston.
Il n'a pas eu 5 balles de 7
des balles de 7 à mon avis, oui, sur le deuxième set, mais pas sur effectivement. Et après il se fait reprendre et il perd 7-5 le set. Mais l'autre grosse déception, c'est évidemment Gaël Monfils, tête de série numéro 22, qui perd contre Fabio Cerundolo au troisième tour, 6-2 6-3. Bon, c'est malheureusement, ça reste le tennis, c'est un sport qui joue sur un match, ça peut être compliqué. On en a vu
mais à partir du moment où tu fais 20 fautes directes en plein match, c'est rédhibitoire.
Ah oui, mais forcément, face à des adversaires qui restent très plutôt corrects, donc c'est logique. De l'autre côté, on a Zverev qui se qualifie 6-2 6-2 face à McDonald. Évidemment, ce n'était pas Ronald. Casper Ruud qui s'impose devant Bublik 6-3 6-2. La petite anecdote un peu marrante, c'est entre Ruud et Bublik, c'est Alexander Bublik, c'est un joueur ukrainien très fantasque, très fantasque, et on l'a vu notamment se matcher avec le grip de sa raquette. Ça, c'était sur un point dans le deuxième set.
C'est ça,
il fait vraiment
le show.
Il fait le show un peu comme à la Kyrgios et tout, mais un peu plus joyeux, je trouve. Voilà.
On a connu des joueurs comme ça, Gary Leitis, des Nastas, comme tu disais. C'était extraordinaire, ces matchs.
Et si on profitait de la présence de Béné parmi nous pour parler un petit peu de rugby?
Juste avant, fait... on voulait juste annoncer, c'était l'annonce de la retraite pour Ashley Barty, WTA, la joueuse de 25 ans qui arrête sa carrière à seulement 25 ans, qu'elle qui avait déjà remporté l'US Open, Roland-Garros et Wimbledon. Open d'Australie.
Trois majeurs.
Il manque un majeur. Je sais plus lequel elle a pas gagné, mais j'ai comme ça.
L'instar d'autres grandes stars. Ingins avait quitté le circuit.
Ouais, on se souvient de Björn Borg, Justine Henin, toutes ces joueuses qui avaient autour de 26, 25 ans qui avaient arrêté le tennis. Hein, donc c'est des choix de carrière et on peut très bien les comprendre, même si forcément pour la beauté du sport on aurait aimé les voir. Continuer, évidemment, surtout qu'elle domine actuellement le tennis féminin. C'est Iga Swiatek, la polonaise, vainqueur de Roland-Garros en 2020, qui prend la première place.
Allez, on enchaîne avec le top 14. Béné, des résultats, s'il te plaît.
Quelques résultats. On peut commencer par un petit clin d'œil, Matt, pour toi. Parce que le RCT a gagné.
Contre Clermont. Face à Clermont.
Ils ont gagné. 32-22.
4 essais pour les rouges et noirs.
Ouais. Exactement. Bah après, on peut noter aussi pour les autres matchs le retour de nos bleus après ce superbe tournoi destination. Bah, je pense que ça a fait du bien à quelques équipes, dont Toulouse.
Exactement.
Qui a gagné contre Lyon.
27-19.
Béné. Ouais, dans le top 6 pour
est-ce
les
qu'ils
play-offs.
Ont retrouvé le trophée dans la scène.
Baptiste Couillou.
Il le cherche encore.
Il le cherche encore.
D'accord. La victoire aussi de Bordeaux 31-18 au Stade Français.
Et un Racing qui s'est pris une petite fessée de La Rochelle aussi.
19-0.
19-0 au Stade de Flandre, ça faisait plaisir.
C'est pas le 128-0 du Stade Nantais, mais...
Apparemment, Vincent Merlingue était un petit peu inquiet en début de match, et il était rassuré à la fin en voyant ce 19-0. Montpellier qui continue de caracoler dans les premiers avec une victoire 37-22. Brive qui assure sa place en battant Castres 28-12.
Voilà, c'est vraiment...
On voit que ça revient à quelque chose avec le retour des internationaux, mine de rien.
On a vraiment deux équipes qui pour l'instant sont juste au-dessus, c'est Montpellier-Bordeaux qui sont premier et deuxième. Toulouse, grâce à sa victoire, revient finalement sur les
Toulouse,
deux.
Toulouse, ils ont perdu, c'est eux qui ont le plus d'internationaux.
Ouais, mais c'est ça. C'est qu'ils ont perdu énormément d'internationaux à cause des matchs internationaux, logique. Et ce qui fait qu'ils vont sans doute revenir finalement sur cette fin de saison, logiquement, alors qu'ils étaient premiers en début de saison.
Oui, 5 matchs à jouer encore.
Au classement, ils étaient sortis du...
Ils étaient 7e à un moment, avant les deux victoires contre Montpellier.
En plein tournoi. Ouais,
La Rochelle aussi, qui est revenue dans le game.
4e.
4e avec Castres, 54 points, et Lyon, 54.
Ouais. Ceux qui font la mauvaise opération, c'est le Racing.
Le Racing est
clairement pas terrible.
15-0, ouais.
Toulon qui revient un peu dans la bataille.
Ouais, ça sera trop dur pour aller chercher la 6e place. Puis je suis même pas sûr que la 7e rapporte encore quelque chose.
Béné, nos petits voisins Vantais, ils ont fait quoi ce week-end?
Ils ont gagné à Grenoble 10-25.
Très bien.
Ah, moi, j'étais resté sur le 27-21 perdu à Béziers. C'était la semaine dernière,
c'était ce week-end, là.
Ah, je me suis gouré d'une semaine.
11e au classement, avec 48 points. Ça ira pas chercher les playoffs.
Ça va être trop compliqué, il y a 13 points de retard sur le Carcassonne
Narbonne qui devrait dire adieu à la Pro D2. Dernier.
Mont-de-Marsan, les premiers.
Carcassonne, le 6e.
Ah oui, le 6e, pardon. Excuse-moi.
Donc 13 points de retard sur Carcassonne, le 6e, ça va être compliqué. Alors, un autre mot de rugby, on avait appris que l'Espagne était qualifiée pour la Coupe du Monde, ça nous faisait plaisir. Et bien, peut-être pas sûr. Un problème avec leur pilier d'origine sud-africaine. Et tout ça va être sous enquête et la qualification de l'Espagne est remise en cause pour la Coupe du Monde.
Et ça serait qui?
On ne sait pas encore. La Roumanie, je crois.
La Roumanie, d'accord.
Mais voilà.
Bon. Ok, bon, si on a terminé...
Un petit mot de golf?
Le golf, c'était championnat du monde de match play.
C'est ça, et on a un nouveau numéro 1 mondial.
Scotty Scheffler,
25 ans.
Trois victoires sur le circuit américain. C'est une grosse de plus saison. Que Cameron Smith, qui est son concurrent pour le classement de la FedEx Cup. Et puis Sam Burns aussi, qui est bien avec deux victoires. Victor Pérez était à Punta Cana pour... Paul Barjon était à Punta Cana pour...
le fameux Paul Barjon.
Il ne veut plus parler de Paul Barjon.
Il passe pas le cut, Paul, donc...
C'est bizarre.
Non.
On se moque pas de Paul.
Non, mais il représente la France
fini
et tout.
La saison. Fini. Sur l'agenda, en avril, retour.
Et ce qu'il faut dire, c'est que Mickelson était un petit peu éjecté de ce tournoi, quoi. Et c'est pas Punta Cana exactement, hein. Ils disent Punta Cana, mais c'est pas Punta Cana, c'est Arroyo.
Ok. C'est là où il était en vacances, donc voilà. Il connaît très bien.
Moi, j'ai pas pu jouer.
Il va toutes les semaines.
Non, il avait oublié son sac. Mais voilà. Mais voilà, Phil Mickelson qui a fait une polémique énorme avec un nouveau tournoi en envoyant un PGA et tout. Et là, ça a plu à personne. Et c'est ce qui est un peu normal.
Il fait sa petite salade de son côté dans les pays du Golfe, Phil Mickelson.
Exactement, voilà.
Sur l'agenda en avril, c'est le retour des majeurs et notamment d'Augusta. Augusta. Le Master. Oui, Augusta, on espère des Master. On espère des Français. L'année dernière, ils étaient deux. Cette année, on voit en fonction du classement mondial pour l'instant. Le meilleur
avant qu'on
Français,
prenne la veste verte, ça va être chaud.
Ouais, il est un peu loin. On suivra ça. Et
juste une. On peut... Moi, j'avais encore un dernier mot. Et c'est encore du rugby. C'est vrai qu'on en parle beaucoup.
Cool.
Mais c'était sur le match de l'équipe de France féminine qui commençait le tournoi destination féminin.
On jouait hier soir.
Et qui jouait hier soir et qui, avec une victoire 39-6. Contre les Italiennes, on a le droit du coup une belle victoire des Françaises qui pour l'instant sont en tête du tournoi à égalité avec l'Angleterre qui a battu facilement l'Écosse. Hein. Voilà, et le Pays de Galles qui avait aussi battu l'Irlande, donc trois équipes avec le bonus. Donc pour l'instant c'est très très serré. Enfin c'est très serré. D'ailleurs ça a commencé que la première journée. Les Françaises qui du coup après défieront, je ne sais plus, j'ai pas le calendrier en
l'Irlande, c'est le même, c'est le même samedi à 15h15 sur France Télévisions, France 2 je crois.
Et j'ai une question, est-ce que les Italiens en rugby vont faire le même record que les Italiens en masculin?
Peut-être qu'elles vont gagner un match,
on sait jamais.
Avant les 36 ou 37?
C'est possible ça. On verra bien, en tout cas on leur souhaite d'être schlémards elles aussi aux Françaises et aux jeunes aussi.
Il y a des possibilités, franchement. Ouais. L'équipe de France, ils sont bons au rugby, donc
très, très bon,
on les encourage très fortement.
Bon, eh ben, il est bientôt 20h. On va laisser la place à nos potes de Passage en Force. C'est de la NBA. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
À la semaine prochaine.